17h. Tout de suite, Europe Soir avec Julien Bugier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Stéphane, bonsoir Mathieu. Merci les amis, on vous retrouve demain évidemment à 4h, 16h, historiquement vôtre, c'est tous les jours. À demain.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos et de débats. Avec ce soir un invité exceptionnel à 18h20, sa parole est rare. Il est le fils du plus célèbre des narcotrafiquants, Juan Pablo Escobar, fils de Pablo Escobar. Il publie un livre choc sur son père et a décidé de se battre pour une Colombie. On l'entendra pacifier, il nous dira tout, ses souvenirs d'enfant, les derniers secrets du baron de la drogue. Interview exclusive à suivre dans quelques minutes donc. 18h30, le débat des grandes voix. Pourra-t-on échapper à un nouveau confinement à l'anglaise? On en parlera. 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la fin de l'argent liquide. Et si nous vivions demain sans cash? Certains militent pour, les paiements sans contact explosent ces dernières semaines. Alors la vie sans billets et sans pièces, est-ce possible? On en débattra évidemment avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord le journal, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et cette fois c'est fait, l'Europe dispose d'un deuxième vaccin contre le coronavirus.
Oui, Bruxelles autorise l'américain Moderna.
Et on n'en aura pas trop de deux pour répondre à l'urgence et aux critiques sur la lenteur de la politique vaccinale.
Demain, le Premier ministre Jean Castex devrait s'exprimer sur le sujet. Conférence de presse très attendue.
Alors que de nombreuses professions attendent également d'en savoir plus sur leur avenir. Restaurateurs, cafetiers, monde de la culture, du sport, remontées mécaniques. L'horizon ne devrait pas s'éclaircir dans l'immédiat.
Aux États-Unis, bad day, comme l'on dit pour Donald Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite, alors que le Congrès s'apprête à valider la victoire de Joe Biden.
Et que les démocrates sont bien partis pour remporter la victoire aux élections sénatoriales de Géorgie, ce qui leur permettrait de contrôler le Sénat.
Nouvelle étape dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn.
Avec de nouvelles fouilles, plus poussées, en présence du mari de l'infirmière. Et puis si vous aimez la grande vadrouille, alors vous allez adorer l'histoire qu'on va vous raconter à la fin du journal. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 1,19% à 5630 points.
Un coup d'œil au temps avec Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Les journées, comme l'on dit, se suivent et se ressemblent.
Oui, demain la journée sera encore bien hivernale avec de nombreux brouillards le matin. Prudence, du soleil dans le sud et des températures encore plus fraîche demain matin. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on aura donc très bientôt deux vaccins à disposition.
Puisque ça y est, dans la foulée du feu vert de l'Agence européenne des médicaments, Bruxelles autorise le vaccin élaboré par l'américain Moderna.
Oui, un vaccin qui a pour particularité de se conserver plus facilement que celui de Pfizer-BioNTech. On vous retrouve en direct, Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, où tout est allé très vite cet après-midi.
Oui, en quelques heures seulement, il y a eu d'abord l'opinion des experts de l'Agence du médicament, puis l'autorisation officielle par la Commission européenne. Ce vaccin nous fournit un autre outil pour surmonter l'urgence actuelle, salue la directrice générale de l'Agence du médicament dans son communiqué. L'Union européenne a commandé 160 millions de doses du vaccin Moderna. La France a droit à 15% de ce total, 24 millions de doses, donc au prorata de sa population. Ce nouveau vaccin repose comme celui de Pfizer sur la technologie nouvelle de l'ARN messager. Mais vous l'avez dit, il est plus facile à conserver. Il n'a besoin que d'une température de moins 20 degrés, alors que c'est moins 80 degrés pour Pfizer. Les essais cliniques ont montré que ce vaccin était efficace à 94%. C'est aussi, selon les chiffres qui ont fuité, le vaccin le plus cher de tous, près de 15 euros la dose. Au niveau français, on attend désormais la validation de la Haute Autorité de Santé. On peut espérer les premières livraisons dès la semaine prochaine. Les vaccins Moderna devraient arriver chez nous au rythme de 500 000 par mois, en provenance dans un premier temps d'une usine située dans le Valais suisse.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Une annonce qui intervient alors qu'en France, après les personnes âgées dans les EHPAD, ce sont les personnels soignants de plus de 50 ans qui commencent à se faire vacciner depuis lundi.
Et partout en France, les choses s'accélèrent, comme a pu le constater aujourd'hui Jean-Jacques Herry, en Côte d'Or.
Dans la salle d'attente, ce que l'on voit d'abord, ce sont des sourires.
J'étais impatient de pouvoir me faire vacciner.
Il y a là Michel, préparatrice en pharmacie, Alain, biologiste en laboratoire. Leur point commun, tous sont considérés à risque en raison de leur âge ou de problèmes de santé. C'est le cas de Philippe. Il a 64 ans, il est médecin isolé dans un petit village de 200 habitants à la campagne, à 50 km de Dijon.
Il n'y a pas de question à se poser pour deux raisons. D'abord parce que je suis une personne à risque et puis parce qu'effectivement, je suis tout seul dans mon coin à la campagne et si je ne suis plus là, il n'y a plus personne. C'est juste un vaccin. J'ai fait celui de la grippe, maintenant je fais celui-ci.
C'est maintenant au tour d'Alain, le kinésithérapeute qui intervient en EHPAD est pris en charge par un médecin et un infirmier.
Donc vous êtes dans la population ciblée.
Enfin, l'aiguille aiguille s'approche de son épaule gauche. Derrière son masque, Alain esquisse à peine un rictus.
C'est une bonne chose de fait.
Les professionnels présents ont en effet conscience de la portée très symbolique de leur geste. Car au comptoir d'une pharmacie, comme dans l'intimité d'un cabinet médical, toujours les mêmes questions reviennent.
Mes patients me demandent ce que je pense du vaccin et je leur dis moi je me fais vacciner. À partir de là, la discussion peut s'engager sur un terrain où la confiance dans leur médecin participe au fait que je puisse améliorer leur décision.
Maintenant, je vais pouvoir leur dire mais je suis vaccinée.
C'est important l'exemple individuel comme
ça. Oui, c'est le meilleur argument.
Dans 3 semaines, tous reviendront se faire injecter la deuxième dose du vaccin avec la conviction d'être au début d'une nouvelle chaîne, celle de la décontamination. Saint-Apollinaire, près de Dijon, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
Un nouveau conseil de défense sanitaire s'est tenu ce matin, à la veille d'une nouvelle prise de parole très attendue du Premier ministre.
Oui, Jean Castex s'exprimera à 18h. On suivra ça évidemment demain sur Europe 1. Il devra notamment répondre aux critiques sur la lenteur de la politique vaccinale.
Les décideurs locaux, les présidents de région, appellent d'ailleurs le gouvernement à s'appuyer davantage sur eux. Et ils souhaitent aussi pouvoir eux-mêmes commander des doses de vaccins. Ils jugent l'État trop centralisé.
Aujourd'hui, en tout cas, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a préparé le terrain avant cette intervention du Premier ministre.
Jean-Rémy Baudot, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers et d'incertitudes aussi sur la table.
Oui, organisation de la politique vaccinale, situation pour les stations de ski, restaurants, bars, salles de sport. Les questions sont nombreuses et en fait les inquiétudes aussi. Demain 18h, Jean Castex se présentera donc les nouvelles mesures sanitaires, issues notamment des discussions entamées ce matin en conseil de défense. Peu d'espoir pour les salles de spectacle, la restauration, les cafés. Le report de leur ouverture semblerait être envisagé par le gouvernement. Le Premier ministre devrait aussi faire le point sur les départements concernés par le couvre-feu à 18h. La liste pourrait s'allonger. Et il s'agira aussi pour Jean Castex de détailler le nouveau dispositif pour les vaccins, les fameux 5 à 6 centres de vaccination dans chaque département dont parlait Emmanuel Macron hier. Le chef de l'État a aussi évoqué la simplification du recueillement du consentement dans les EHPAD. Ce matin à l'Élysée, l'humeur était plutôt maussade face aux polémiques sur le vaccin. Certains s'agacent. Sur la stratégie, on n'est pas les plus mauvais, assène d'un conseiller qui se justifie. Nos écoles, elles restent ouvertes. La situation globalement est maîtrisée et les réanimations sont stables depuis un mois. Fin de citation. Malgré tout, la pression reste forte. Et pour cette conférence, le gouvernement marche clairement sur des œufs. On est partagé entre donner de la visibilité et éviter les déceptions, décrypte un membre de l'exécutif.
Bien, et on suivra ça évidemment demain ensemble. Conférence de presse à suivre en direct sur Europe 1, très attendue avec Jean Castex. Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Michelin réduit encore ses effectifs en France. Le fabricant de pneumatiques va supprimer 2300 postes sans licenciement dans le cadre d'un grand plan de compétitivité. On y reviendra dans notre journal de 19h.
18h06, la suite du journal. On part maintenant aux États-Unis avec une très mauvaise journée pour Donald Trump.
Oui, avec d'abord les résultats des élections sénatoriales en Géorgie. Alors, ça n'est pas encore totalement officiel, hein, mais les démocrates sont sur le point de remporter la victoire et devraient donc prendre le contrôle du Sénat, ce qui donnera à Joe Biden tous les leviers pour pouvoir, à son arrivée à la Maison-Blanche, avoir les pleins pouvoirs. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Alors, c'est bon pour le premier candidat, encore incertain pour le second, même si tous les deux revendiquent la victoire.
Oui, d'abord le révérend Raphaël Warnock dans la soirée d'hier. Victoire ensuite officialisée par toutes les agences de presse américaines. Il sera le premier sénateur noir de Géorgie. Et ce matin, c'est l'autre candidat démocrate, John Ossoff, qui a à son tour annoncé sa victoire dans le second scrutin. Il a délivré un message de solidarité.
Unissons-nous maintenant pour vaincre ce virus et accélérer l'aide économique pour la population de notre État et pour les Américains. Cette campagne a porté sur la santé, l'emploi et la justice pour tous les habitants de cet État. Ces thèmes seront mes principes directeurs tant que je servirai la Géorgie au Sénat des États-Unis.
Alors attention, pour le moment, aucun média américain n'a validé la victoire de John Ossoff. Il est actuellement en tête de 0,4 points de pourcentage. Un recomptage des voix est encore possible si l'écart avec son concurrent ne dépasse pas les 0,5%. Le républicain David Perdue a réagi via un communiqué dans la nuit. Il parle d'une élection serrée et annonce qu'il utilisera tous les recours pour s'assurer que les bulletins de vote légaux sont correctement comptés, soit le même vocabulaire qu'utilise Donald Trump à propos de la présidentielle. Ce dernier a d'ailleurs tweeté ce matin, il dénonce une élection truquée. Notre processus électoral est pire que celui du tiers-monde, dit le président.
Voilà, ce matin, c'est ce soir chez nous, Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Réaction également de Joe Biden qui salue cette victoire probable et qui s'engage à agir dans un esprit d'unité.
Oui, on le disait, très mauvaise journée pour Donald Trump. Alors, il y a cette défaite en Géorgie qu'il ne digère pas, on vient de l'entendre. Et puis, c'est aujourd'hui que le Congrès américain s'apprête à entériner officiellement la victoire de Joe Biden.
Avec la validation du vote des grands électeurs, sous la houlette du vice-président sortant, Mike Pence. Jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, Trump a tenté de faire pression sur son bras droit. Il lui a demandé de mentir, de dire qu'il avait gagné. Mike Pence a répondu qu'il ne le ferait pas.
Oui, ce qui n'empêche pas le président américain sortant de continuer à refuser sa défaite. Il s'exprime d'ailleurs en ce moment même devant la Maison-Blanche à Washington, devant ses supporters. « Nous ne concéderons jamais la défaite », vient-il de déclarer.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 18h08. La suite de votre journal dans quelques secondes. On sera dans le Tarn où les enquêteurs fouillent la maison de Delphine Jubilard, cette infirmière portée disparue depuis presque 3 semaines maintenant.
Et puis quand des voleurs de grands crus rejouent une scène de la Grande Vadrouille.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec Isabelle Millet. Donc, on parle de cette disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn. Et il y a du nouveau, Isabelle.
Oui, vous savez que c'est cette mère de famille, infirmière de 33 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis mi-décembre. Eh bien, Benjamin Peter, de nouvelles fouilles ont lieu aujourd'hui au domicile du couple en présence du mari.
Oui, depuis ce matin, ce sont les techniciens de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie nationale venus spécialement de Pontoise avec du matériel de haute technologie qui ont pris le relais. Ils se sont concentrés sur la maison et pour cela, ils avaient convié Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une audition. Son avocat n'était d'ailleurs même pas présent, mais bien d'une nouvelle perquisition pour laquelle sa présence en tant que propriétaire était bien entendu requise. Les gendarmes ont donc passé près de 8 heures dans la maison. Ils se sont notamment fait aider par un radar qui permet de sonder la densité des parois et des sols à la recherche d'une éventuelle cache où un corps aurait pu être dissimulé. Au même moment, on a vu tout à l'heure des équipes cynophiles continuer à ratisser les alentours et un autre groupe de militaires ouvrir chaque plaque d'égout et descendre à la recherche d'indices. Des fouilles qui avaient pourtant déjà été entreprises il y a quelques jours. Alors qu'il est, les équipes de l'IRCGN sont toujours sur place, le quartier reste bouclé et pour le moment, le parquet se refuse à tout commentaire sur le résultat de ses recherches.
Benjamin Peter à Cagnac-les-Mines, juste à côté d'Albi, dans le Tarn pour Europe 1.
La justice annule la cagnotte litchi de l'ancien boxeur gilet jaune, souvenez-vous, Christophe Détinger.
Oui, cagnotte qui avait été créée il y a tout juste un an. Christophe Détinger était alors en garde à vue pour avoir frappé des gendarmes lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. En 2 jours, les dons avaient atteint 145 000 euros. Mais Litchi avait décidé de suspendre cette cagnotte dénoncée par les syndicats de policiers et par des responsables politiques. Julian Assange reste en prison. La justice britannique décide son maintien en détention en attendant que soit examiné l'appel formulé par les États-Unis.
Et puis cette course-poursuite, Isabelle, également en Saône-et-Loire, entre des gendarmes et des voleurs de grands crus.
Des malfaiteurs qui étaient parvenus à faire main basse sur 350 000 euros de très bon vin dans la cave d'un relais château. Sauf que le propriétaire réveillé par l'effraction a réussi à suivre le fourgon. La suite, c'est le patron des gendarmes de Saône-et-Loire qui nous la raconte.
La victime a pu suivre à bonne distance le véhicule des malfaiteurs et ainsi nous donner toutes les indications pertinentes. Donc nos gendarmes ont pu se mettre dans la roue du véhicule des malfaiteurs. À partir du moment où les malfaiteurs ont aperçu donc le véhicule de gendarmerie qui les suivait, là on est rentré dans une scène un petit peu étrange puisque les malfaiteurs se sont mis à jeter des objets depuis le véhicule. Des objets qui n'étaient rien d'autre que les bouteilles de grands crus qu'ils avaient subtilisées donc, dans le relais château. Alors, au-delà de l'aspect un petit peu cinéma, si vous voulez, type la grande vadrouille, où ce ne sont pas des citrouilles qui sont jetées, mais des bouteilles de grands crus, on a un vrai dilemme pour le chef de patrouille entre maintenir la poursuite des malfaiteurs sans mettre en danger en fait, les autres usagers de la route. Car là, après 6 heures du matin, le trafic s'intensifie. In fine, leur véhicule s'est posé sur un trottoir. Ils ont réussi à s'évanouir dans la nature, donc à la limite des communes de Villeurbanne et Vaux-en-Velin. La très grande partie, hormis les quelques bouteilles qui ont été jetées par la fenêtre, le butin a été retrouvé et intact.
Voilà, le patron des gendarmes de Saône-et-Loire, le colonel Guillaume Dard, joint pour Europe 1 par Guillaume Bier. Et on adore la comparaison avec la Grande Vadrouille.
C'est vrai qu'on adore la Grande Vadrouille avec le grand Louis de Funès. La reprise de la Ligue 1 de foot ce soir, Isabelle.
Oui, avec notamment Saint-Etienne PSG. Ce sont les débuts, vous le savez, du nouveau coach parisien, Pochettino. Baptême du feu également pour Raymond Domenech à Nantes, qui affrontera Rennes à partir de 19h. À 19h, on suivra également Strasbourg-Nîmes, Brest-Nice, Lorient-Monaco, Metz-Bordeaux. À 21h, Reims-Dijon, 21h également Marseille qui accueille Montpellier, Saint-Etienne PSG, je vous en ai déjà parlé, Lille-Angers et puis Lyon-Lens, voilà pour le programme donc, de cette soirée de reprise de la Ligue 1.
Et bien voilà, pour tous les fans de foot, ils ont de quoi s'occuper voilà. Ce soir. Et on donnera tous les résultats demain, Isabelle
ce soir avec Julien Pierce, bien sûr.
Ce soir avec Julien Pierce, évidemment.
Europe Soir, le 18-20.